Rencontre est dernière déjà. Le temps passe. Voilà, nous allons prier si vous voulez bien. Seigneur Jésus, c'est encore une joie de prendre ce temps de méditation, de découverte encore de ta parole, des perfections de ta parole, tous ces détails, Seigneur, que nous allons encore rappeler et que tu avais déjà préparé pour annoncer ton Fils. Et tout ce qu'il allait faire. Seigneur, bénis-nous ensemble, nous te le demandons, bénis ceux qui sont chez eux, derrière leur écran, je te prie pour eux aussi, que tu sois présent aussi, et que nous soyons tous unis par ton esprit. Que ton nom soit loué en Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous sommes donc arrêtés hier après-midi à la cuve d'Airain, qui nous a rappelé la sanctification, la purification des Lévites. Donc je rappelle qu'ils devaient toujours se laver à la fois pour entrer, ceux qui étaient préposés à entrer dans le lieu saint, et ceux qui s'occupaient des sacrifices pour se laver, pour qu'ils puissent apporter le sacrifice dans la pureté en fait, même si on sait que la pureté n'existe pas dans ce monde. Mais c'est ainsi que Dieu le voulait. Voilà, nous arrivons donc maintenant à ce qu'on appelle la tente d'assignation, ou la tente de la rencontre, ou, comme j'ai dit, le tabernacle, selon le contexte dans lequel le mot est employé. Et nous découvrons déjà les couvertures qui sont posées. Donc, vous avez une première couverture, qui est celle en peau de dauphin, voilà, ici. Qui est coupé en cinq bandes et six bandes. Les cinq bandes sont au-dessus du lieu très saint et les six bandes sont au-dessus du lieu saint. Donc, la première couverture. Alors, on me fait toujours la remarque des dauphins. Oui, des dauphins. Enfin, il y a des traductions qui parlent de notre animal, mais généralement, ce sont les dauphins. Il faut pas s'en inquiéter parce que, de toute façon, l'Égypte se trouvant entre la mer Méditerranée et aussi la mer Rouge, et en tout cas ces deux mers en leur frontière, il y avait de quoi avoir des dauphins en grand nombre, il y en avait, et on s'en servait. Le texte que nous avons lu hier, lorsqu'ils sont partis et qu'ils ont dépouillé les Égyptiens, vous vous souvenez, il y avait dans cette description les peaux de dauphins, déjà. Donc ils s'en servaient, et les Hébreux certainement s'en servaient aussi, peut-être même pour leur propre tente, c'était courant et commun. Alors, on va essayer de voir avec ces différentes couvertures comment le Seigneur, de façon verticale, nous montre l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que il y a à la fois la dimension verticale où l'œuvre de Christ est mentionnée par les couvertures, et il y a la dimension horizontale où l'œuvre de Christ est aussi mentionnée, comme si le vertical et l'horizontal allaient se retrouver dans le lieu très saint où était la présence même de Dieu. Puisque nous avons déjà vu qu'en quittant le camp, en entrant par la porte, c'était redit ce matin, en passant par l'autel des holocaustes et le pardon des péchés, on devenait pur aux yeux de Dieu, donc on était lavé, la cuve d'Airain, n'est-ce pas? Et on entrait dans le lieu saint. Je vais en parler du lieu saint. Et la dimension verticale, eh bien, nous commençons par la couverture du haut, celle qui protégeait le tabernacle en tant que tel, puisque le cuir protège des intempéries, que ce soit de la pluie, du vent, etc. Donc il fallait cette peau. Eh bien, cette peau, en fait, elle est commune. Elle est, y a rien de particulier. Tout le monde pouvait en avoir des peaux de dauphin. C'était basique, si je puis dire. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que Jésus-Christ, le prophète Ésaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. C'était un homme comme les autres. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne le visage, etc. Vous voyez. Donc c'est un Jésus vient parmi les hommes, comme les hommes, avec les hommes. Il n'est pas mieux. Je sais pas ce que je veux dire. Il est mieux, bien évidemment, parce qu'il est sans péché. Mais le visuel, voilà. Et cette peau fait penser un petit peu à cela, à l'incarnation humaine de Jésus, qui s'identifie aux hommes, au commun des mortels. La deuxième couverture, donc, qui est une couverture rouge, mais rouge parce qu'elle est teinte en rouge,
elle était en peau de bélier. Le bélier, là encore, doit nous rappeler quelque chose d'intéressant pour cette dimension de l'œuvre du Christ verticale, puisque c'est la deuxième étape du Christ quand il donne sa vie, puisque le rouge montre le sang. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous le comprenez, dans le tabernacle, le sang est partout. Le rouge est présent. Eh bien, lorsque Abraham, Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils, il le met à l'autel, il l'attache et il va pour l'égorger. Et au moment où il va pour l'égorger, il nous est dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. C'est pas une chèvre, c'est pas un agneau, c'est un bélier. Retenu par les cornes dans un buisson, il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc on a déjà là la substitution qui était déjà mentionnée en Abraham, avec Abraham, que nous avons vu hier dans l'autel des holocaustes. Donc cette peau de bélier, c'est pas un hasard. C'est le substitut du fils. Mais comme il n'y avait personne pour substituer le Fils de Dieu, eh bien c'est le Fils de Dieu qui est venu mourir à la place des hommes, l'agneau de Dieu parfait, mais il est représenté par cette peau de bélier. Donc, logique, Jésus, l'homme commun, descendu du ciel pour s'identifier aux hommes, donne sa vie, et c'est le sang de la couverture qui le montre, cette peau de bélier à la place du fils Isaac à la place des hommes. D'accord? Voilà. On a la deuxième étape. Ensuite, nous avons une autre peau, bien sûr.
Alors, c'est la peau. Un poil de chèvre. Ici. Donc, on imagine très aisément que les chèvres sont de couleur, enfin les peaux en général sont plutôt claires, hein. Il y a des chèvres noires, hein, c'est vrai, faut pas dire le contraire, mais
je pense que la généralité veut faire comprendre, je crois que c'était plutôt clair. Et cette troisième couverture représente dans la pensée spirituelle de l'œuvre de Christ la pureté qui est à la fois sur lui, puisqu'il est sans péché, et la pureté qu'il accorde à ceux qui accepte son pardon à la croix et que son sang a coulé. Vous voyez, voilà, on est rendu pur aux yeux de Dieu, même si nous restons des hommes pécheurs. Dieu nous regarde à travers l'œuvre de la croix et à travers le sang de Jésus. Dieu nous voit purs. Parce que le jour où je mourrai, je ne serai pas parfait, bien évidemment, c'est évident. Donc, j'aurais pas eu l'occasion, peut-être, de confesser des péchés que j'aurais commis et que l'Esprit ne m'aurait pas encore eu ou ne m'a pas montré. Mais je suis sauvé parce que je suis purifié, parce que ma vie a été remise et que j'ai dit, je suis d'accord avec le sang de Jésus et je sais qu'il me purifie. Vous voyez, il y a quand même une notion ici de pureté qui est faite au regard de Dieu, vue d'en haut. Moi, c'est comme ça que je ressens un petit peu les choses et que je comprends un petit peu les choses. En même temps, je l'ai dit, X fois, il faut, chaque fois que le Saint-Esprit nous montre un péché, il faut aller l'apporter au pied de la croix, autant de fois que cela est nécessaire, mais en sachant que je resterai un homme pécheur aux yeux de Dieu, mais pardonné, vu pardonné grâce au sang de Jésus. Et puis nous arrivons à la quatrième couverture. Alors c'est le texte qu'on a cité déjà hier, donc je ne le cite pas plus. Hein. La quatrième couverture, qui est donc la couverture qui est spéciale, puisqu'elle n'est pas faite en peau ou en poil. C'est une couverture qui est brodée, donc c'est un tapis, qui est représenté par ces couleurs, hein, qui sont des chérubins, en fait, qui sont brodés, avec les fameuses couleurs, hein, de cramoisi, bleu, blanc, fainéant, etc. Hein, voilà. Donc cette couverture était donc... alors je pense que, bien évidemment, la broderie, là, c'est pas rendu, mais la broderie se voyait des deux côtés, je suppose, j'ai jamais fait broderie, donc peut-être qu'il y a un côté où c'est moins joli, je crois qu'il y a un côté où c'est la broderie, il me semble. Mais voilà. Donc, mais bon, comme ils ont fait des choses extraordinaires, c'est possible qu'ils aient fait les deux côtés, que ce soit magnifique, je sais pas. Voilà. Toujours est-il que quand on entrait dans le lieu saint, le plafond, on y voyait ça. Les côtés, on ne le voyait pas, puisqu'il y avait les barres et les plages, on va en parler. Mais ils voyaient en tout cas le plafond, avec ses couleurs et ses chérubins. Donc, n'oublions pas que les chérubins étaient les anges qui se trouvaient près du trône de Dieu. On le voit particulièrement dans le prophète Ésaïe, Ézéchiel, qui a une vision aussi assez incroyable de Dieu et de son trône, avec ses roues, ses yeux, etc. Parce que les archanges, etc., les autres anges ne sont pas proches du trône. Ce sont les chérubins qui avaient cette place. Il est question, quand il est parlé de Satan qui a voulu prendre la position de Dieu, il était un chérubin protecteur, dit l'Ésaïe. Donc c'était vraiment, faisait partie des anges proches du trône de Dieu. Donc il nous est dit, tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et tu y représenteras des chérubins selon l'art du brodeur. Voilà. Et c'était bien évidemment les chérubins parce que là était la présence de Dieu. Le lieu saint, pré-présence de Dieu, si je puis dire, mais c'était surtout le lieu très saint dans lequel Dieu se trouvait. Ce qui rappelle ce que Jésus nous a dit, je l'ai dit ce matin dans ma prédication, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Alors on imagine ces couleurs et qui devaient être magnifiques. En plus, il y avait des anneaux d'or qui étaient au milieu, qui devaient se voir aussi par-dessous, qui devaient briller à la lumière du chandelier sur lequel nous allons nous arrêter dans un instant. Mais poursuivons un instant sur ces quatre couleurs, le fin lin, le pourpre, le cramoisi et le bleu, je l'ai rappelé, mais je veux quand même le redire, se trouve sur la porte d'entrée, vous l'avez vu, qui se trouve sur le premier voile qui amène dans le lieu saint, et qui se trouve sur le deuxième voile qui se trouve pour aller vers le lieu très saint. Eh bien, y compris les couleurs, vous l'avez vu, des sacrificateurs lévites qui étaient en blanc avec une ceinture qui avait les couleurs aussi. Et Aaron, bien évidemment, qui, vous l'avez vu, vous le verrez, dans le lieu saint, qui lui a toutes les couleurs ensemble dans son habit de souverain sacrificateur. Les quatre couleurs représentent à elles seules l'œuvre aussi de Jésus-Christ. Le pourpre était la couleur des rois, de ceux qui ou à qui appartenait l'autorité la plus élevée. Vous avez par exemple aujourd'hui, dans l'Église catholique romaine, les cardinaux qui sont habillés en pourpre, qui ont l'autorité spirituelle, les théologiens, docteurs en théologie. Jésus est roi, bien sûr, nous le savons, c'est dit 10 fois dans l'Écriture. Les mages venant vers Hérode ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient, n'est-ce pas ?» Lorsque Jésus va être arrêté par les Romains, on va lui mettre un vêtement pourpre pour se moquer de lui. Ah, tu dis que tu es roi, ben tiens, prends ton signe de royauté, tiens, prends-le sur toi, vous voyez. On avait aussi là ironisé avec le pourpre. Et puis un dernier texte dans l'Apocalypse, au chapitre 17, il nous est dit, ils combattront contre l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait, mais voilà, ces couleurs le montrent encore au plus. L'autre couleur, c'est le cramoisi, donc qui est plus du côté couleur du sang, encore une fois, qui révèle encore ce que le Seigneur a fait. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. La couleur pourpre, la couleur cramoisi. La couleur du fin lin rappelle, je l'ai dit, la pureté, encore une fois, de son humanité. Même son juge terrestre, Pilate, qui était le responsable gouverneur romain, a dit « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il est blanc pour moi. Je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Et ce texte d'Hébreux 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toute chose comme nous, sans commettre de péché. » Et enfin, la couleur bleue, qui est la couleur du ciel. Cette couleur du ciel qui rappelle que Jésus est issu d'ailleurs, il est du ciel, même si derrière le mot ciel, on peut mettre beaucoup de choses, mais ça, pour nous, le ciel représente l'infini, le grandiose, etc. Et aussi, bien sûr, la présence de Dieu. Et en même temps, ben, il y est descendu et il y est remonté dans le ciel. Hein. C'est son ascension qui peut être aussi manifestée. Personne, dit Jean, n'est monté au ciel, c'est Jésus qui parle, hein, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, qui est toujours dans le ciel. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et en quittant le ciel, d'ailleurs, Jésus a obéi à la volonté de son Père en disant « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et cette obéissance à la parole du Père évoque aussi la frange de couleur bleue au bas de la robe d'Aaron. Vous le verrez peut-être pas, mais elle y est sur le personnage que j'ai fait. Il y a une frange qui dépasse derrière son vêtement, qui tombe sur le vêtement blanc, qui était le premier vêtement qu'il avait. Et cette frange bleue représentait l'autorité de la parole de Dieu. Et il fallait qu'elle se voie et qu'elle soit en avant. Nous passons maintenant à la tente d'assignation, mais cette fois les planches, ceux qui ont fait le tour. Une structure qui délimite donc cet ensemble du lieu saint et du lieu très saint. Les planches étaient en bois d'acacia, recouvertes d'or. Elles avaient chacune une double base en argent, socle qui devait peser des dizaines de kilos, une fois moulé. Enfin démoulé, mais qui était porté à plusieurs, hein, donc ça posait pas de soucis. Donc chaque planche était reliée par 4 barres que vous verrez. Alors je les ai mis derrière, mais vous le verrez, 4 barres ou des traverses et qui sont elles-mêmes placées dans des anneaux fixés sur chaque barre de façon verticale. Donc il y a ces 4 barres horizontales et à l'intérieur. Vous aviez une autre barre que nous voyons sortir, qui était une barre qui ne se voyait pas, mais qui traversait de part en part l'intérieur de la structure. Spirituellement, ces planches sont intéressantes aussi, parce qu'elles me rappellent un petit peu ce que sera l'Église plus tard et ce que nous sommes aujourd'hui dans l'Église. Quand je dis plus tard, c'est à l'époque de Moïse, mais ce que l'Église est aujourd'hui et comment elle est représentée. Nous sommes membres du corps de Christ. Veillons sur les autres, dit l'Épître aux Hébreux, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Encourageons-nous mutuellement, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous sommes, aux yeux de Dieu, devenus enfants de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes identique, comme ces planches étaient identiques. Mais cette identité, ou le fait d'être identique, c'est à travers ce que nous avons vécu spirituellement avec le Christ, qui est égal pour tous. Mais nous sommes différents dans nos caractères, dans notre façon d'être, etc. Et c'est ces différences, justement, qui font que l'Église est complémentaire et que chacun ajoute une pierre à l'édifice en fonction de ce qu'il a reçu du Seigneur. Mais La chose qui nous unit, c'est la pureté que nous avons en Christ par son sang, que nous avons accepté comme sacrifice pour nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui nous rend égaux et identiques complètement. Nous sommes tous pécheurs, bien évidemment, mais rachetés de l'Éternel. Et comme les planches étaient recouvertes d'or, nous de même, nous avons revêtu Christ. L'or représente aussi la royauté. C'est l'élément par excellence, c'est ce qui est rare et cher, c'est ce qu'on met chez les rois, etc. Nous avons recouvert, nous avons revêtu Christ, c'est bien ce que dit la parole. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous avez tous été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, la barre qui passe au centre de ces planches ne se voit pas, mais elle fait bel et bien le lien et la cohésion entre toutes ces planches. Eh bien, cette barre à l'intérieur nous fait penser à l'Esprit de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu, qui fait notre identité en Christ, que nous ne voyons pas, mais qui se voit d'une autre façon, qui se voit par notre expérience, par notre louange, par notre façon de vivre. Ça, c'est l'esprit qui agit, n'est-ce pas? Mais il est là en nous. Chacun, nous l'avons. Et nous sommes devenus le tabernacle de Dieu, l'habitation de Dieu, notre propre corps. Quand on y pense quand même, et quand on pense au tabernacle, et tout ce que Dieu demandait pour y venir dans son habitation, et qu'il a inversé les choses, il a dit, maintenant c'est plus vous qui allez venir chez moi, c'est moi qui viens chez vous. Quand on imagine ce qu'il demandait pour venir chez lui, et là il vient chez moi, où je suis un pécheur notoire, etc., on se dit, mais quelle grâce, et quelle miséricorde de Dieu qui accepte de faire son habitation à moi, mais il fait son habitation à moi parce que ma porte et mon cœur a été ouvert au sacrifice de Jésus. Ça, c'est une évidence. Il ne vient pas chez ceux qui n'acceptent pas le Christ dans leur vie. Il est dit dans l'épître de Jacques, « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. » Voilà. « Je viens chez vous par mon Esprit. » Alors ces cinq barres en même temps pourraient être aussi vues, me semble-t-il, dans les qualités que l'apôtre Paul met en avant lorsqu'il écrit aux frères d'Éphèse. C'est un texte sur lequel je suis tombé il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a tout de suite fait tilt avec le tabernacle. Voici ce qu'il dit. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, le lien de la paix. » Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, vous voyez? Il y a ces cinq qualités, quatre qui sont des qualités qu'il faut rechercher, bien évidemment, et la cinquième qui est celle de la paix, et vous l'avez vu dans le texte, et qui est associée à l'esprit de Dieu qui produit cette paix. Et cet esprit représente, pour moi en tout cas, cette barre qui est à l'intérieur. Je vous fais remarquer aussi, lorsqu'il termine ce texte, il y a un seul corps, un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Nous avons ici une double trinité qui est mentionnée. C'est intéressant parce que la trinité, vous ne la trouverez pas en tant que, le mot trinité, vous ne le trouverez pas dans le Nouveau Testament, mais le terme de trinité est représenté puisque c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, trois en un. Littéralement, c'est ce que signifie la trinité. Trois en un. Bien, vous avez ici, il y a un seul esprit. Il dit qu'il y a un seul Seigneur, Jésus, et il y a un seul Dieu. Voilà la première mention de la Trinité. Et le dernier verset, il est dit qu'il est au-dessus de tous, le Père. Il agit à travers tous, c'est le Fils aussi, et c'est l'Esprit, et il habite... Non, il agit, c'est le Fils, et il habite en nous tous, c'est l'Esprit. Voilà, bon, c'est une parenthèse que je voulais simplement mettre en avant. Voilà, maintenant nous allons nous approcher et entrer, ou en tout cas... essayez d'entrer dans le lieu saint, parce qu'on ne peut pas y entrer encore, il y a le voile qui est à l'intérieur. Ce voile est retenu, ou soutenu plutôt, par cinq piliers que j'ai placés ainsi par rapport à ce que j'ai vu dans des ouvrages qui me semblaient beaucoup plus logiques. Je le disais à quelqu'un tout à l'heure, des fois on met les cinq colonnes bien parallèle, bien identique au niveau des côtes, mais en fait, avec l'échelle, je me suis rendu compte qu'en mettant une colonne au milieu, enfin là où elle n'est pas actuellement, le sacrificateur pouvait avoir du mal à rentrer. Il fallait presque qu'il se mette sur le côté pour rentrer. Alors peut-être que il fallait qu'il le fasse. J'interprète peut-être quelque chose qui est mal. Je ne sais pas. Mais je trouvais que il y avait plus de place en fait, tout simplement, pour le faire rentrer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant et pertinent dans un livre d'avoir collé les deux piliers sur les côtés. De même, voilà. Alors oui, ces piliers me rappellent et pourraient bien nous rappeler le Pentateuch, comme les Évangiles étaient rappelés par les quatre piliers de la porte d'entrée, qui sont la base de la loi, hein, enfin ce que Moïse va écrire durant ses 40 ans dans le désert, de la Genèse au Deutéronome. Donc il n'y avait pas de chaise dans le lieu saint, vous le remarquerez, il n'était pas question de s'y asseoir et de s'y poser. Le Lévite fait chaque jour debout le service. Il va, il fait ce qu'il a à faire et il ressort. Bien évidemment, il s'est lavé avant d'entrer, hein, on l'a bien dit à plusieurs reprises. Donc on ne s'assoit pas pour faire la causette dans le lieu saint. Voilà, on le fait à l'extérieur. Quand on entre donc dans le lieu saint, nous avons en partie droite le pain ou la table des pains de proposition, appelée ainsi, elle aussi construite en bois d'acacia, recouverte entièrement d'or, parée de dorures sur les bords de la table. Le terme de proposition signifie littéralement être posé devant, mais il y a aussi le fait d'être rendu propice, hein, la proposition, etc. Bon, c'est aussi traduit par les pains de la présence, puisque ces pains, bien évidemment, rappellent ce que Dieu va faire tout au long de ses 40 ans dans le désert, à savoir s'occuper de son peuple, nourrir son peuple, nous allons le voir dans un instant. Alors ce sont les Kéatites, selon ce texte d'un Chronique 9, quelques-uns de leurs frères, les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés. Donc, vous souvenez, les Mérarites, les Kéatites et les Guershonites, eh bien, ce sont eux qui étaient préposés à la table des pains. Donc, tous les vendredis, hein, on enlevait les pains, on préparait pour le sabbat et on mettait les pains nouveaux. Et les pains anciens, on peut imaginer qu'ils étaient pas comme des baguettes d'aujourd'hui où le lendemain c'est déjà sec comme du bois. Ils devaient se conserver un peu plus longtemps et devaient être mangés, donnés en tout cas aux sacrificateurs et aux lévites qui n'avaient pas de terre, plus tard en tout cas, en Israël. Le texte d'Exode 25 nous dit « Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi ». Donc il y avait les 12 tribus d'Israël représentées pour ces 12 pains qui étaient placés sur des plateaux d'or, comme dit le texte, et qui manifestaient la permanence de la sollicitude de Dieu envers son peuple et envers les 12 tribus, sans exception, bien sûr. Alors le pain, nous le savons, provenait de quelque chose de miraculeux que le Seigneur envoyait toutes les matins, hein, par terre. C'est genre de gélatine, c'était un peu bizarre, qu'on faisait sécher, qu'on pilait, et on arrivait à faire de la pâte avec ça, appelée la manne. Et le terme manne, en hébreu, signifie « qu'est-ce que c'est ?». En fait, les Hébreux se sont interrogés au premier matin, et même aux autres matins, bon, après ils ont compris quand même au bout d'un moment, « qu'est-ce que c'est ?». Et en fait, ça a donné ce nom « manne ». C'est étonnant, hein, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Cette manne, en fait, elle est venue au moment où le peuple hébreu vient contester un petit peu l'autorité de Moïse, ou en tout cas vient se plaindre auprès de Moïse en disant « Nous n'avons rien à manger, nous entrons dans le désert, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Moïse est un peu coincé. Et cela peut faire imaginer que les provisions qu'ils avaient prises en quittant l'Égypte était épuisé, et que plus de provisions, on va vers le chef en disant « Maintenant, tu nous nourris comment ?» Et c'est là que Dieu envoie la manne et donne à Moïse cette solution. Une fois, il a donné des cailles, parce que le peuple va murmurer aussi, et cette viande providentielle sera leur nourriture, mais ça ne durera pas. Par contre, la manne, elle, va durer tous les matins, pour que chacun en ramasse ce qu'il fallait pour sa famille. Nous savons dans ces textes aussi que celui qui essayait d'en ramasser plus pour faire des provisions pour le lendemain, n'ayant pas la foi que le lendemain matin il y ait encore de la manne, eh bien le surplus pourrissait pendant la nuit et il ne pouvait pas le manger le lendemain. Et c'est là que l'on comprend, me semble-t-il, davantage encore cette parole dans notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a une double répétition, une répétition de l'aujourd'hui qui est peut-être intéressante pour montrer que voilà, c'est pour aujourd'hui et aujourd'hui. Pour demain, ça me regarde pas encore. Ça regarde Dieu le demain. Donne-moi aujourd'hui mon pain d'aujourd'hui. Et c'est ce que faisaient les Hébreux. Bien évidemment, ils n'avaient pas le choix. Alors quand on n'a pas le choix, alors si ils avaient le choix, c'était de prendre un peu plus, mais ça marchait pas. Ils ont vite compris que ça marchait pas. Voilà. Et le seul jour où ça marchait, c'était le jour, la veille du sabbat, parce que le sabbat il ne fallait pas travailler. Donc quand ils prenaient, et Dieu leur avait dit, vous prenez le double portion le jour du sabbat, enfin la veille, et vous aurez pour le sabbat de quoi faire votre nourriture, ou en tout cas de quoi manger sans aucun problème. Alors là, bien sûr, nous avons une représentation incroyable dans le Nouveau Testament avec ce regard de ce dernier lorsque Jésus nous dit dans Jean 6 « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne, le qu'est-ce que c'est, dans le désert, et ils sont morts. Mais voici comment il est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra jamais. Oui, je suis le pain vivant descendu du ciel, etc., etc. » Voilà ce Jean 6 qui est incroyable et qui fait lien avec les Hébreux, puisque Jésus lui-même dit à ses auditeurs que oui, ils ont mangé du pain venu du ciel, mais ce pain ne les a pas rendus éternels. Mais par contre, Jésus est ce pain du ciel qui rend et donne cette éternité. Voilà, vous imaginez qu'on pourrait parler beaucoup encore sur cette table, ce pain, mais voilà, je donne simplement ces points-là pour aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, nous tournons juste un petit peu pour voir que le chandelier, le menorah, se trouve en face, donc à gauche en entrant dans le lieu saint. Deux fois par jour, matin et soir, le lévite devait faire attention à ce que les lampes soient constamment allumées. Donc il fallait nettoyer, il fallait voilà, c'est tout un travail, avoir de l'huile aussi. C'est pour ça que j'ai fait une petite dame avec son compagnon ou son conjoint qui amène dans le tabernacle à un lévite un vase d'huile comme offrande en fait pour le chandelier. Il nous est dit, Lévitique 24, verset 3, « C'est devant le voile qui cache le témoignage, dans l'attente de la rencontre, car on la préparera pour que les lampes brûlent constamment du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Alors on comprend que le lieu saint n'ayant pas de fenêtre, d'ouverture, le voile pouvait laisser paraître un petit peu de lumière, on peut l'imaginer, mais peut-être pas autant que cela, eh bien cette lumière éclairait ce lieu pour que les lévites puissent faire tranquillement leur à la fois leur travail, mais aussi ce symbole de lumière montrer que Dieu était présent parce qu'il est la lumière. On va y venir. Le chandelier est le seul objet avec celui qu'on verra dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance, le couvercle en particulier, fait d'or pur. Et le chandelier a été fait d'or en une seule pièce, en une seule fois. Apparemment, d'après ce que j'ai lu dans ces commentaires, ce serait sur un bloc d'or de 34 kilos, d'après les traductions du poids que Dieu donne à Moïse. Voilà, 34 kilos d'or en un bloc qui a été façonné, monté, travaillé pour faire le chandelier. C'est un miracle. Même aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur le fait comment ils ont pu réaliser ça. Alors, je vous rappelle, et j'avais volontairement insisté là-dessus, j'ai mis dans Betsaleel mon esprit pour qu'il soit capable de faire toutes sortes d'ouvrages, etc., etc. Donc, ce qu'il a fait, c'est Dieu qui l'a fait à travers Batsalei. Les mains de cet homme étaient des mains d'or, c'est le cas de le dire, parce que c'était les mains de Dieu lui-même, par l'esprit qu'il avait mis en lui. Il y aura donc, et nous connaissons bien sûr cela, 6 branches qui sortiront, 3 branches du chandelier à l'un de ses côtés et 3 branches de l'autre côté. Donc, c'est donc parallèle, hein, symétrique plutôt, avec des broderies à l'intérieur, des pommes, des feuilles, des voilà. Et à chaque niveau, parce que ça c'est pas bien représenté, mais à chaque il y a des niveaux dans chaque branche en fait, hein, un de 3 niveaux je crois, hein, plus la lampe au dessus. Et il y a toute une représentativité qui serait intéressante à développer que sur le chandelier. Mais moi j'aimerais m'arrêter un petit peu sur et faire une remarque sur l'or. Je voudrais rappeler que l'or est un symbole d'excellence et de valeur. Et l'or est présent partout dans le lieu saint et le lieu très saint. Que ce soit par les planches recouvertes, que ce soit par les objets, que ce soit par le chandelier, etc. L'or, je l'ai rappelé, évoque le divin. Il est aussi l'un des cadeaux que les mages vont apporter aux petits enfants. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il est la couronne d'or et qui fait la distinction suprême que Dieu va discerner au vainqueur de la mort. Il est dit, tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Voilà. Donc, Jésus est représenté déjà à travers cet or dans le tabernacle en tant que digne d'excellence et de valeur. Voilà. C'est notre Dieu a beaucoup, bien sûr, de valeur pour nous parce qu'il nous a, bien sûr, rachetés. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'or, plusieurs choses de plus précieux que l'or, et que la Bible nous dit. Et ce sont des textes dont on ne fait peut-être pas attention. Plus précieux que l'or, nous dit l'Écriture, c'est la sagesse. La sagesse, aucun mortel n'en connaît le prix. Elle ne s'échange pas contre de l'or pur. On ne la met pas dans la balance avec de l'or d'Ophir. On ne peut lui comparer ni l'or de la terre, ni l'échanger contre un vase d'or fin. La sagesse. Et nous savons qui est-ce qui est cette sagesse. Eh bien, c'est la crainte du Seigneur et le commencement de la sagesse. Vous voyez, c'est intéressant de voir que, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est précieux? La sagesse et la crainte de l'Éternel. C'est d'ailleurs pour cela, entre autres, que j'ai fait broder, ça, parce que ça, la broderie, c'est pas moi qui l'ai faite sur le tabernacle. Sainteté à l'Éternel. Quand on reconnaît la sainteté de Dieu, on est déjà dans la crainte de l'Éternel. Mais cette bonne crainte, hein, pas cette crainte qui fait que Dieu est un père fouettard, etc., que il faut que on est dans la liberté, hein, avec Christ. Mais cette liberté ne doit pas empêcher de saisir et de vivre dans la crainte de Dieu et de voir sa sainteté. Plus précieux que l'or, nous dit la Bible, la foi. Pierre parle de l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu. L'épreuve de votre foi est plus précieuse même que l'or pour Dieu. Parce que pour se débarrasser des impuretés de l'or, il faut l'épurer. Et on l'épure dans le feu. Et une fois que c'est épuré, l'or pur en ressort, n'est-ce pas? Eh bien, les épreuves sont là pour épurer notre vie, pour nous amener à enlever ce qui n'est pas peut-être pour et à la gloire de Dieu. Une vie sans épreuve serait une vie, je dirais, presque morne. On a besoin d'épreuves. Je dis pas qu'il faut les chercher. Je dis que quand Dieu les envoie, eh bien, il faut savoir pourquoi il les envoie. Et ne pas s'obstiner et dire, non, je les veux pas. Mais Seigneur, si tu me l'envoies, c'est parce que tu as quelque chose à me dire. Et là, je vais être épuré. Et je vais avancer. Et je vais grandir. Alors oui, il y a des familles qui sont plus éprouvées que d'autres. On est d'accord. Ça, c'est le mystère de Dieu. On ne sait pas pourquoi. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles avaient beaucoup de scories à enlever. Prenons pas l'image trop loin non plus. Hein. Et toi, tu en as bien besoin parce que tu es mauvais. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais les épreuves sont là pour cela. Regardez Job, par exemple, hein, qui à la fin de son écrit va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et comment j'ai vu Dieu? Il l'a vu à travers la souffrance. Et pas autrement. Voilà. Et c'est souvent dans ces cas-là que nous sommes mis plus en avant et que la sainteté quelque part est amenée. Job 23 dira aussi « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, donc il, Dieu, sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Job 23, verset 10. Vous voyez le lien qu'il fait aussi avec l'or. Mais plus précieux que l'or, bien sûr, la parole de Dieu. La loi de l'Éternel, psaume 19, les témoignages de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les jugements de l'Éternel sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin. Psaume 119, verset 127, j'aime tes commandements plus que l'or épuré. Ouais, même l'or qui a été transformé. Voilà, donc ces affirmations du psalmiste nous encouragent et nous incitent à montrer dans nos vies que la parole de Dieu a bien plus de valeur que les biens matériels que nous pourrions avoir. Quand on parle de l'or, bien sûr, dans le domaine du monde d'aujourd'hui, on parle de biens matériels, hein, parce que c'est la valeur refuge quelque part, hein, aujourd'hui, toujours d'ailleurs. Voilà, donc il faut voir l'opposition entre les deux. Et enfin, plus précieux que l'or, bien sûr, la parole nous le dit, 1 Pierre 1, le sang de Christ. Vous avez été rachetés, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Voilà. On n'avait rien à faire de plus qu'accepter la valeur du sang de Christ comme une valeur digne de l'or. Alors on peut dire sans aucun doute que le chandelier évoque bien le Seigneur Jésus, parce que en lui, dit le texte, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et l'or est la plénitude de la divinité d'une certaine manière. Mais, bien sûr, le chandelier rappelle cette parole de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». Donc elle évoque cette présence même de Jésus dans le lieu saint. Et rappelons ce qu'écrit Jean au début de son évangile, « Au commencement était la parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jésus-Christ, ce chandelier qui brille dans ce monde de ténèbres, par ses paroles et par ses actes. Mais en même temps, nous allons plus loin, parce que Jésus a aussi dit, « Vous êtes la lumière du monde à ses disciples. » Vous prenez la suite de mon incarnation, une fois que je suis enlevé au ciel, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Quelqu'un a écrit qu'en quelques millénaires, l'homme a incroyablement transformé son environnement. Par contre, son cœur et ses besoins sont restés les mêmes. C'est pour cela que notre monde a besoin de croyants authentiques qui témoignent de l'Évangile et qui le vivent. La lumière, elle est vue, elle n'est pas entendue. Nous sommes vus avant même d'être entendus. Voilà. Et on aura d'autant plus envie de nous entendre qu'on aura vu quelque chose de différent en nous. Et ça, je parle du témoignage par rapport à nos voisins, nos collègues de travail, notre famille, nos enfants, etc. Que nos paroles ne soient pas en contradiction avec notre vie, avec ce que nous professons ou ce que nous voulons. Hein. Voilà, c'est ça, c'est capital. Hein. Que vos reins soient sains, dit Jésus, et vos lampes allumées. Voilà, je cite encore quelques versets pour compléter, avant d'aller un petit peu plus loin. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous noterez donc, vous l'avez compris, que le chandelier est en face de la table des pains de proposition, ce qui pourrait nous apporter un élément aussi théologique, à savoir que l'Esprit de Dieu, qui est représenté aussi par l'huile, qui alimente bien sûr le chandelier, notre lumière brille pour la gloire de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il est libre d'agir. On est d'accord ? Et qu'il est renouvelé, il se renouvelle en nous, bien évidemment. On ne prend pas d'esprit au fur et à mesure qu'on a besoin, on l'a une fois pour toutes, c'est ma théologie en tout cas, certains ont une autre théologie, parlent d'onction, parlent de manifestations particulières, etc. Même s'il y a des expériences à vivre, j'en ai vécu, l'esprit il est là, et c'est à moi de dire à l'esprit, par ma vie, agis, travaille, fais de moi ton disciple, fais de moi ce que tu veux, il est là. Il est là, et il me fait vivre, bien évidemment, des expériences. Mais en même temps, cette lumière éclaire la table des pains de proposition, cette lumière éclaire les pains, qui représentent ces pains, la parole de Dieu aussi. Cette parole, le pain que nous, par lequel nous nourrissons spirituellement, et que nous avons aujourd'hui par la Bible, Toute écriture, dit Paul, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et corriger, etc. Voilà. Donc l'inspiration, c'est bien l'esprit qui la donne. Et l'esprit, c'est l'huile qui fait briller le chandelier et qui éclaire la parole. Voilà comment je vois un petit peu les choses dans ce lieu saint avec le chandelier. Je rappelle juste au passage, parce que ça c'est une étude que vous pouvez faire aussi, les sept paroles de Jésus et les « Je suis » que Jean donne dans l'évangile pourraient bien faire penser aux sept lampes du chandelier. Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, le cep de vigne. Hein, voilà, c'est sept « Je suis » répertoriés dans l'évangile de Jean. Jean qui rappelle, je vous dis au passage, que en tout cas qui est motivé dans son évangile pour parler de la royauté de Jésus, de la divinité de Jésus. C'est son but à Jean. Il parle pas de la naissance d'ailleurs, c'est le seul qui va pas développer la naissance miraculeuse, etc. Marie-Joseph, il n'en parlera pas. Il parle de suite de la lumière qui vient dans le monde, vous voyez, Dieu qui descend dans le monde. Et donc cette lumière qui est Dieu, qui est clair, etc. Voilà, donc c'est tout un ensemble dans son évangile. Et puis, en face au voile qui mène dans le lieu très saint, nous avons l'autel des parfums, dernier objet de ce lieu. Il a la forme d'un parallélépipède dont la base est carrée. Alors, en voyant ici le dessin avec les barres qui sont mises à l'intérieur, ces barres étaient faites bien sûr pour transporter les objets, sauf le chandelier, mais le pain des propositions en avait aussi, l'arche de l'Alliance bien sûr aussi. Mais, et vous le regarderez dans la maquette, quand ils étaient posés dans les lieux, la table des pains et l'autel, on enlevait les barres. Par contre, dans l'arche de l'Alliance, les barres ne devaient jamais être enlevées. On la touchait pas. On la portait, on la posait. Point. C'est-à-dire, il n'y a que Moïse qui peut-être pouvait la toucher, parce que il était privilégié. Alors, pareil, cet autel est fait de bois d'acacia recouvert d'or, hein, c'est pareil, la même chose. Et puis, à sa partie supérieure, il y a comme une coupe, hein, en fait, qui est faite, dans laquelle le parfum va être installé, et par les trous que cette coupe a, le parfum va se répandre. Aaron prendra de ce parfum et en mettra aussi dans un encensoir que vous verrez dans le lieu très saint. C'est le seul objet avec un autre qui est placé pour lorsqu'il venait une fois l'an, il puisse amener le parfum aussi dans ce lieu. Alors ce parfum, c'est intéressant parce qu'il dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur en partie égale, et tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Donc, ce parfum, si vous voulez, était fabriqué spécialement pour le lieu saint, c'est-à-dire pour Dieu. Il est dit un peu plus loin, vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Hein, vous voyez, c'est le Coco Chanel numéro 5 avant l'heure. Hein. C'est vraiment le top du top pour le Seigneur et pas pour les êtres humains. Débrouillez-vous avec vos parfums, mais vous ne faites pas le même que moi. Voilà, c'était assez spécial. Et ce parfum nous rappelle bien évidemment quelque chose dans les évangiles. Enfin, pas dans les évangiles, dans l'épître de Paul en particulier. Je pense à 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. On est encore dans le témoignage, là, vous voyez. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Effectivement, quand je fais sentir l'odeur de Christ dans ma vie, que ce soit par mes paroles ou mon comportement, eh bien, ceux qui vont voir cela, soit seront peut-être touchés et pour eux cette odeur va devenir une odeur de vie, soit ils vont être contre et ils vont dire non, je n'en veux pas, et cette odeur devient pour eux une odeur de mort. Parce qu'ils s'éloignent quelque part, pour un temps, je l'espère en tout cas pour eux, seulement du salut. C'est donc une importante responsabilité qui nous incombe d'être le parfum de Jésus-Christ. Alors, Bien sûr, le parfum devient odoriférant lorsque la lumière m'éclaire, lorsque l'Esprit agit en moi, lorsque la parole de Dieu pénètre en moi et reste en moi, lorsque je ne suis pas un auditeur oublieux, etc. Tout cela, ce sont des textes que nous lisons et qui font partie, je l'ai déjà dit, de la sanctification que nous sommes invités à vivre. Mais en même temps, je pense que cet autel des parfums nous fait penser aussi à la prière. J'en ai parlé ce matin. Prier sans cesse, disait Paul, je le reprends. Parce que, à un moment donné, un psalmiste va écrire « Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, donc un parfum, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Voyez ? Donc, quand je prie, c'est aussi comme un parfum, d'après ce psaume, qui monte à Dieu. Et forcément, quand je prie parce que l'Esprit me motive, parce que la parole me nourrit, et je suis en communion, bien sûr, avec Dieu. Donc je pense qu'aussi on peut voir cette prière. Bien, nous sommes donc maintenant face au voile. Ce fameux voile, qui est aussi en forme brodée, mais cette fois avec des chérubins qui rappellent le toit qu'on a vu tout à l'heure, hein, et qui rappellent qu'attention, les chérubins sont autour du trône de Dieu. Là, tu es devant le voile, il y a les chérubins, donc tu es à côté du trône de Dieu. Donc tu n'y passes pas. Interdiction totale. Les quatre piliers qui maintiennent ce voile me semblent aussi m'ont fait penser aussi à quelque chose. Nous fait penser aux quatre points cardinaux, l'est, l'ouest, l'est, le nord et le sud, et particulièrement à ce texte de Luc où Jésus dit « On viendra de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. » Et le lieu très saint, c'est le royaume de Dieu. C'est la représentation du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu y est. Et en fait, on viendra de tous les horizons du monde s'asseoir à table dans le royaume de Dieu. J'ai trouvé peut-être intéressant, en tout cas, moi ça me plaît, voilà, ça plaît qu'à moi, c'est pas grave, moi ça me plaît, de voir ces quatre piliers qui pourraient être représentés comme cela. Alors, contrairement à ce que notre frère disait ce matin, mais je comprends que on peut pas tout savoir et découvrir, seul Moïse pouvait entrer dans le lieu très saint. Aaron y rentrait une fois par an, tu l'as dit. Mais Moïse y rentrait quand il voulait, comme il voulait, quand il voulait parler à Dieu et quand Dieu voulait lui parler. Le texte que tu as lu ce matin, je sais pas, dans l'Exode, qui dit « Je te rencontrerai dans la tente de la rencontre », je ne sais plus, tu as dit « Je te parlerai », etc. C'est dans ce lieu-là qu'il va le faire. Comme d'ailleurs, je vous ai parlé d'une tente de la rencontre avant la construction du tabernacle, qui était à l'extérieur du camp, où Moïse entrait, et là, Dieu lui parlait. Eh bien, Dieu parlait aussi à Moïse, et il allait là, Moïse, pour s'adresser à Dieu, pour recevoir les instructions, et ô combien il a eu besoin d'en recevoir, surtout quand le peuple venait, comme je pourrais reprendre un petit peu l'expression ce matin du juge, lui casser la tête, hein, parce que des fois c'est un peu lourd à porter, hein, Moïse en avait un peu ras-le-bol. Voilà. Donc il y avait une relation vraiment profonde entre Moïse et Dieu, d'intimité, où il entendait Dieu lui parler de façon audible, comme on peut parler aujourd'hui. Le voile dont il y a question ici est ce voile qui a été déchiré et dont on a parlé aussi un peu ce matin, hein. Mais bien sûr c'est pas celui du temps du tabernacle, c'est celui du temps du temple qui a été conçu autour de l'an, un peu plus de l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'est ce voile-là qui sera reconstruit par Hérode, hein, bien évidemment, parce qu'il a été détruit par les Babyloniens, reconstruit ensuite. C'est ce voile-là qui va se déchirer. C'est le voile entre le lieu saint et le lieu très saint, montrant ainsi que tout homme désormais peut entrer dans le lieu très saint sans aucun problème, sans avoir peur d'y mourir, comme ça pouvait être le cas si c'était à cette époque, en tout cas, à la fois du tabernacle et du temple par la suite. Et la parole nous dit « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ». Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il faut rappeler que une fois par an, lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, il y entrait au moment où il y avait ce fameux jour du grand pardon, mais le pardon pour le peuple et la nation ensemble, le Yom Kippour, qui est une fête bien évidemment importante pour les Juifs, aujourd'hui encore. Et donc un sacrifice était fait, c'est à ce moment-là qu'il y a ce fameux bélier, ou je ne sais pas si c'est un bélier, qui était mis hors du camp parce qu'il portait le péché, mais bouc. Pardon, voilà, le bouc, merci, qui était porté hors du camp, etc. Mais en même temps, il y avait le sacrifice qui était fait, et Moïse apportait le sang de ce sacrifice, et il venait mettre le sang, on va le voir plus près là, entre les chérubins, sur le propitiatoire. Je vais expliquer, je vais y venir. Et c'est ce sang, parce que ce sang représentait le peuple, le pardon du peuple dans son ensemble. Alors bien sûr, n'imaginons pas que le peuple faisait la queue, là, comme à la sécu, hein, en venant confesser les uns après les autres. Ils étaient 2 millions, hein, c'était impossible. Certains n'avaient peut-être même pas idée de ce qui pouvait se passer. C'est possible aussi, en tout cas, c'est ainsi que Dieu voulait que le peuple soit, dans son ensemble, purifié, une fois l'an. Et après, les sacrifices, chacun venait individuellement pour faire ce qu'il avait à faire. Donc le lieu très saint, il est très saint justement pourquoi ? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est manifestée par la nuée, nous l'avons compris. J'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voilà le texte du Lévitique. Ça veut dire que la nuée que nous voyons dépasser sur le tabernacle, en fait, elle traverse les peaux parce qu'elle s'échappe du propitiatoire. C'est ce propitiatoire dans lequel se trouvent les chérubins en or. On va les voir. Ce lieu était cubique, largeur, hauteur, profondeur égale, 4,56 m. Et en fait, là, on pense tout de suite à quelque chose. La Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur étaient égales. 2200 kilomètres. C'est deux fois Dunkerque-Nice. En largeur, en hauteur et en profondeur. Voilà la place, entre guillemets, si je prends, j'aime être, le prendre pour moi ainsi, littéralement, la partie qui sera réservée pour le royaume de Dieu. Avec des portes d'or, avec des perles, des pierres précieuses, il y aura aussi de l'or partout. Regardez comment c'est décrit à Apocalypse 22, 21, 22. C'est magnifique, bien évidemment. Et ça ressemble au niveau des côtes au lieu très saint, et c'est normal parce que le lieu très saint représente le royaume de Dieu. Il n'y avait pas de lumière dans le lieu très saint. C'était une obscurité qui devait être encore plus importante puisque le premier voile laissait peut-être transparaître un peu de lumière. Bien sûr, il y avait le chandelier, mais après on allait un petit peu plus loin, il y avait encore un voile qui était brodé aussi, donc il y avait de l'obscurité. Et je suis tombé sur un texte, un peu par hasard, entre guillemets, dans mes lectures, dans 1 Roi chapitre 8 verset 12, il est écrit que l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. C'est un peu surprenant, hein. Alors qu'il est, je suis la lumière. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Voilà. Mais quelque part, dans l'obscurité, c'est là qu'on voit le mieux la lumière aussi, hein, si on peut réfléchir à cela. Enfin bon, je vais pas m'arrêter là-dessus plus que ça. Bien. Dans le lieu très saint, nous avons donc l'arche de l'alliance. Alors, l'arche de l'alliance peut être aussi appelée, et selon les versions ou les textes, arche du témoignage, arche de l'éternel ou arche. C'est aussi le contexte immédiat qui fait qu'on comprenne de quoi on parle. Pourquoi ? Parce que l'arche du témoignage, c'est une partie de l'arche de l'alliance. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bien. L'arche de l'alliance, quelqu'un a dit, il n'a pas été construit pour le tabernacle, mais le tabernacle a été construit pour l'arche de l'alliance. Il ne faut pas oublier que quand Moïse descend de la montagne la première fois, il jette les tables de la loi, et puis une fois que l'épisode du veau d'or est terminé, les Lévites ont châtié le peuple, etc., Moïse va remonter sur la montagne, et il va avec des tables de pierre qu'il avait déjà préparées, et Dieu lui a demandé, je vais réécrire les tables. Et il a réécrit les tables. Et en descendant pour la deuxième fois, eh bien, il a fabriqué comment dire, un coffre, pardon, un coffre en acacia, et Dieu lui a dit, tu mettras ces tables de la loi dans ce coffre. Ça, c'est la première chose qui a été faite dès que Moïse est redescendu pour la deuxième fois. Mais on va y venir. Donc je disais ça pour dire que le coffre a été construit avant le tabernacle. C'est pour ça que je parlais de ça, hein, vous comprenez. Donc vous avez les deux parties de l'Arche de l'Alliance, le coffre, qui est appelé l'Arche du Témoignage, et le couvercle, qui est appelé le propitiatoire. Tu feras un couvercle en or pur, tu feras deux chérubins en or battu, aux deux extrémités de ce propitiatoire. Propitiatoire, littéralement, cela signifie rendre agréable, rendre propice. Et c'est au milieu ici qu'Aaron venait déverser le sang le jour du Yom Kippour, hein, du sacrifice. Donc vous ferez sortir de ces deux extrémités, les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvriront de leurs ailes et se feront face à face l'un l'autre, ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Donc ils étaient dans l'adoration et la contemplation. Il y a deux autres textes intéressants. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. Voyez. Ou bien l'Éternel règne, les peuples tremblent, ils siègent entre les chérubins, la terre tremble. Et c'est là que Moïse reçoit en disant, c'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire. Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Et voyez pourquoi on peut affirmer que Moïse y entrait quand Dieu l'appelait, et certainement quand lui avait besoin d'aller parler vers Dieu, particulièrement quand le peuple venait lui poser des questions et qu'il n'avait pas de réponse. Quant à la partie basse, donc c'est l'arche du témoignage. Pourquoi est-elle appelée l'arche du témoignage? Donc tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Eh bien parce que il y avait à l'intérieur trois objets qui témoignaient de trois situations, de trois choses en particulier. Le premier objet, ce sont les tables de la loi dont on a déjà parlé, qui ont été les premières à être placées dans le coffre que Moïse a reçu dans la deuxième édition. Ensuite, il comprenait un vase dans lequel se trouvait de la manne pour rappeler aux générations à venir et même après, ou en tout cas toutes les générations qui étaient pendant 40 ans, mais après l'Arche de l'Alliance sera sortie du tabernacle et sera mis dans le temple, mais bien plus tard, hein, parce que le temple va pas être construit rapidement quand même, hein, il y a des centaines d'années qui vont se passer, mais le tabernacle ne sera plus reconstruit en Israël. Il y aura ce qu'on appelle les lieux de sacrifice, d'adoration, comme Bethel, il y avait à Jérusalem, il y avait à Silo, etc., hein, où les sacrificateurs, on voit Samuel qui se déplace en particulier et qui va sacrifier et qui va faire ce qui est à faire, mais c'est que quand le temple sera fait que les choses reviendront un peu comme au temps du tabernacle, mais pas pour longtemps, enfin pour quelque temps quand même. Et puis le dernier objet qui se trouve, eh bien c'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ceux qui étaient là hier après-midi, quand nous nous sommes retrouvés autour, je vous ai parlé de la révolte de Corée, vous vous souvenez? Bon, eh bien, quand la révolte de Corée fut terminée, que le sol s'est dérobé, que la famille a été anéantie, Moïse a demandé aux 12 chefs de tribu de leur apporter un bâton sur lequel était inscrit leur nom du chef, du responsable. Et il a dit, voilà, vous avez contesté l'ordre de l'Éternel, voyez ce qui s'est passé, maintenant l'Éternel va affirmer et confirmer qui doit s'occuper, je prends des raccourcis en disant ça, hein, qui va s'occuper de mon service. Donc tout le monde a mis son nom, y compris Aaron, pour la tribu de Lévi, mais ça faisait 12 bâtons avec la tribu de Lévi. Donc il place ces 12 bâtons devant l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, et il dit au peuple, demain matin, nous verrons qui l'Éternel a choisi. Et pendant la nuit, le bâton mort, hein, bâton, c'est pas un arbre, hein, le bâton d'Aaron fleurit. Et quand Moïse sort les bâtons et qu'il les met par terre, et comme ils étaient tous notés, hein, du nom de chacun, personne ne pouvait dire c'est le mien, hein, je le reconnais, il avait une là, ton nom est écrit, point. Discutons plus. Et c'est celui d'Aaron qui avait fleuri. Ainsi, Aaron fut conforté dans cette phase d'autorité en tant que souverain sacrificateur, en tout cas premier souverain sacrificateur, puisque de toute façon il mourra, lui, dans le désert, quelques décennies avant même l'entrée au pays. C'est ses fils qui, au fur et à mesure, vont prendre le relais, même si deux de ses fils mourront avant lui, parce qu'ils auront porté dans le lieu saint des feux étrangers, et Dieu va les foudroyer. Enfin, badinez pas avec ça. Hein. Il se passe des choses parfois assez incroyables. Bien. Alors, je ne vais pas développer, parce que là aussi on pourrait s'y arrêter plusieurs heures. Le vêtement du souverain sacrificateur était un vêtement très spécial par rapport au sacrificateur basique, les lambda. On a parlé des épaulettes ce matin. Alors, tu porteras les 12 tribus sur tes épaules, ça veut pas dire... Il y a la responsabilité, bien évidemment, mais spirituelle, mais il y a surtout le fait que sur les épaulettes, il était inscrit les 6 et 6, 12 tribus d'Israël. Tu les porteras sur tes épaules. Les noms sont là, écrits. De même que sur les 12 pierres enchâssées dans l'éphode, que j'ai réalisé aussi dans le souverain sacrificateur, chaque pierre avait le nom d'une tribu gravée. Et là aussi, on pourrait s'arrêter sur les 12 pierres précieuses qui représentent chaque fois quelque chose pour chaque tribu. C'est assez impressionnant. Il y a du diamant, il y a de l'onyx, il y a vraiment de belles pierres. Hein. Voilà. Donc, une tunique blanche comme les sacrificateurs, recouverte donc de cette tunique bleue. Là, vous avez la frange ici avec qui représente la parole de Dieu qui sortait là. Vous avez des grenades qui avaient été brodées. Vous avez des clochettes qui sont aussi cousues. Ces clochettes étaient pour faire entendre Aaron lorsqu'il était en mouvement dans le lieu très saint, en particulier ce fameux jour du pardon, pour qu'on sache qu'il est encore en vie, parce que c'était un lieu où on ne pouvait pas y aller n'importe comment, et voilà, il faudrait pas que Aaron ait manqué quelque chose. Enfin, voilà. Il y avait quand même une crainte de Dieu dans ce domaine-là, qui était assez forte. Hein. Voilà. Donc, le pectoral, c'est là où il y a les pierres, hein. Donc une ceinture, l'éphode, c'est ceux qui portent le pectoral, etc. Et une tiare, c'est-à-dire un bonnet, sur lequel il y avait une lame d'or. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, parce que cette lame d'or était inscrite « Sainteté à l'Éternel ». Et c'est ce que j'ai fait broder. Parce que quand on parlait à Aaron, quand on était face à Aaron, qu'on le regardait dans les yeux, on ne pouvait pas ne pas manquer ce qui était écrit au-dessus. « Sainteté à l'Éternel ». Il représentait quelque part la sainteté de Dieu à travers ce qu'il était et ce qu'il devait faire à travers et par les sacrifices. Et c'est, pour moi en tout cas, un maître mot dans le tabernacle, la sainteté de l'Éternel. Comment du peuple on arrive au royaume de Dieu, vous avez vu, en passant par toutes les étapes, et comment, qu'elle soit horizontale ou verticale, on l'a rappelé, et comment le Nouveau Testament nous fait comprendre en éclairage, comment le Christ a montré aussi tout ce chemin pour arriver dans le royaume de Dieu qui nous est réservé dans les cieux, bien évidemment, montre que la sainteté de Dieu est pas anodine en même temps, au jour d'aujourd'hui encore. Et que peut-être parfois, il faut faire attention de ne pas trop jouer avec ça. Dieu n'est pas un copain sur lequel on tape sur l'épaule. Oui, Jésus a dit « Je vous appelle ami » à ses disciples. Nous sommes amis de Jésus, de Christ, d'accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant que... Voilà, on prend des libertés comme on peut prendre parfois avec sa parole, j'entends. Parce que quand on délite sa parole et qu'on l'interprète mal ou qu'on tombe dans le libéralisme, etc., ce n'est pas respecter et ce n'est pas être dans la sainteté de Dieu, bien évidemment, on comprend. Voilà, ça c'est un autre domaine hein, dans lequel je ne vais pas entrer maintenant. Alors je vais conclure simplement pour rappeler le premier verset que j'ai cité hier après-midi, mais qui est dans un contexte et dans la suite du texte que je n'ai pas encore donné. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée, et j'espère que j'ai pu montrer comment elle a été révélée à travers le tabernacle, cachée déjà pendant ce temps, mais révélée en Christ. Elle nous enseigne Et là, rappelez-vous, tout ce que nous avons vu sur la sanctification, en particulier à travers les objets du tabernacle, hein, et ce qui est dans le parvis, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice, la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé, pour de belles œuvres. Et je termine dans ce domaine de l'action purifiée, zélée, pour de bonnes œuvres, par la partie du lieu saint, où il y a les trois objets qui, pour moi, sont la partie qui représente l'Église d'aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Si nous avons une partie du royaume de Dieu en nous par l'Esprit, nous n'y sommes pas encore. Et nous sommes donc dans cette partie du lieu très saint, du lieu saint, qui représente pour moi la vie de l'Église d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai expliqué, mais en particulier avec les trois objets qui y sont. Le pain, nourrissons-nous du pain que Dieu nous donne, à savoir sa parole. Ça fait partie de notre sanctification. Le chandelier, laissons le Saint-Esprit nous éclairer et devenons des lumières pour ceux qui sont autour de nous. C'est le témoignage. Et troisièmement, l'autel des parfums. Ne cessons pas de prier, d'intercéder, de louer, d'entrer dans cette dimension de la prière, ce que j'ai rappelé ce matin par les deux veuves en particulier, les deux femmes en particulier, sur l'importance de la prière dans cette attente. L'attente de quoi ? D'entrer dans le royaume de Dieu, qui nous est déjà ouvert, mais qui descendra du ciel, telle la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22. Voilà comment je vois un petit peu les choses dans ce tabernacle, pour la vie de l'Église aussi, pour nous aujourd'hui. Voilà, on va faire comme hier, si vous voulez bien, on va prier, je vais prier simplement, et puis peut-être on va se retrouver ensemble autour du tabernacle, de la maquette, et puis on aura peut-être encore des questions, j'expliquerai peut-être certaines choses encore. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, c'est une grâce de prendre ce temps. Merci de nous avoir donné la force d'être là et voilà, de rester éveillé pour entendre ce que tu veux nous rappeler. Merci Seigneur pour ces points importants qui sont pour nous aujourd'hui dans la vie de l'Église locale même, à travers les fonctions, les objets du tabernacle. Seigneur, merci encore une fois de nous éclairer et de nous amener encore plus près de toi, pour comprendre encore plus de choses et voir combien, Seigneur, la perfection de ta parole dans les petits détails est incroyable et était prévue de toute éternité. Tu es un grand Dieu, Seigneur, nous le savons, mais nous pouvons encore le voir à travers cela. C'est en Jésus que je te bénis et je te loue. Raccompagne tout à l'heure chacun, Seigneur, et renouvelle-nous encore. Amen. Voilà, on va s'y rendre.